This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, ce sera donc l'année 1938. Ce fut une année décisive. Même si la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne et les autres pays d'Europe ne date que de 1939, l'année 1938 fut l'année de tous les dangers. Ce fut l'année des accords de Munich qui, on se pose la question, on se demande s'ils ont été conclus pour être dépassés. En réalité, le chancelier Hitler, qui avait pris le pouvoir quelques années plus tôt, a une idée derrière la tête et donc, peu à peu, il ne respecte absolument pas le traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'est le traité qui a été signé à la fin de la Première Guerre mondiale et qui prévoit, d'une part, le désarmement de l'Allemagne, la fixation de frontières définitives, avec la perte d'un certain nombre de territoires pour l'Allemagne, et également le non-développement des industries d'armement. En réalité, Hitler, qui a donc des visées hégémoniques sur l'Europe, lui contourne totalement ce traité. Il le foule au pied, pourrait-on dire, puisqu'il relance son industrie d'armement, que ce soit sur terre ou dans les airs, et il recrée une armée de 300 000 hommes, armée normale, pourrait-on dire, à l'époque, correspondant à certains autres pays européens, mais armée qui se met à exister alors qu'il n'y en avait plus. Et peu à peu, il va provoquer l'ensemble des démocraties occidentales. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la démocratie est un régime plutôt faible. On en a des démonstrations tous les jours, même aujourd'hui. Et ces démocraties vont discuter avec quelqu'un qui n'a d'autre idée que de les duper. Et peu à peu, eh bien, ces démocraties, les principales, la France et l'Angleterre, bien sûr, vont se faire, comme on le dit vulgairement, rouler dans la farine. Au point que, eh bien, l'année suivante, ce sera la guerre.
À peine nommé chancelier de l'Allemagne, le 30 janvier 1933, Hitler commença à mettre en œuvre ses projets à long terme. Dès le 3 février, il réunit son état-major et le mobilisa pour préparer l'objectif ultime, conquérir les territoires de l'Est et les germaniser coûte que coûte. Les instructions étaient claires, se préparer à une politique expansionniste de grande ampleur. L'Allemagne avait interdiction de posséder des chars de combat, mais un traité secret avec l'Union soviétique, signé en 1923, lui permit de développer des modèles de chars et d'expérimenter de nouvelles tactiques de blindés mobiles. De jeunes officiers allemands débordant d'ambition, comme Heinz Guderian, lurent les théories des stratèges britanniques comme Little Hart ou le colonel John Fuller. Ils étudièrent même les manœuvres d'exercice réalisées par les Britanniques pendant les années 1920 dans la plaine de Salisbury. Ils en tirèrent l'idée que des unités mobiles rapides, composées de chars, d'artillerie et d'infanterie, pourraient percer plus vite les lignes ennemies et pénétrer plus en profondeur dans leur territoire. Hitler adopta leurs idées avec enthousiasme. La nouvelle armée allait compter 3 divisions Panzer. L'armée de l'air, la Luftwaffe, était commandée par un héros de la Première Guerre mondiale, Hermann Göring. Elle aussi disposait d'un cadre pour se structurer. Pendant toutes les années où l'armée de l'air fut officiellement interdite, l'Allemagne développa ses compétences techniques en construisant des machines civiles. Les clubs d'aviation et de vol à voile fourniraient une réserve de pilotes entraînés pour la future armée. Hitler révéla l'existence de la Luftwaffe en mars 1935. Il annonça également que 300 000 hommes composaient désormais l'armée allemande et que la conscription avait été rétablie. La Grande-Bretagne et la France protestèrent timidement face à cette violation flagrante du traité de Versailles. Mais les deux pays commencèrent très vite, à contre-cœur, leur plan de réarmement. Jusque-là, les objectifs d'Hitler avaient été modestes. Il s'était contenté de reprendre ce qui appartenait à l'Allemagne, la Rhénanie et la Sarre. Désormais, son objectif était bien plus ambitieux. Il visait l'Autriche, son pays natal. En 1934, les nazis autrichiens avaient tenté de prendre le pouvoir et d'unir leur pays à l'Allemagne. Tous les Autrichiens parlaient allemand, après tout, même s'ils n'avaient jamais fait partie d'un État allemand. En février 1938, un nouveau complot nazi fut démasqué en Autriche. Le chancelier autrichien, Kurt von Schuschnigg, protesta vigoureusement auprès d'Hitler. Hitler répondit en exigeant de l'Autriche qu'elle cesse de maltraiter les nazis autrichiens et qu'elle s'unisse à l'Allemagne. Schuschnigg organisa rapidement un référendum afin que les Autrichiens puissent décider de rester ou non indépendants. Mais le 12 mars 1938, à la veille du référendum, Hitler, craignant que le résultat ne soit pas à son avantage, envoya ses troupes. La surprise absolue et l'accueil enthousiaste réservé aux envahisseurs par des sympathisants nazis firent de l'Anschluss une invasion sans effusion de sang. Quelques heures plus tard, Hitler annonçait l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich. Pour la première fois, une nation souveraine était annexée pour former une grande Allemagne. Une fois encore, les démocraties occidentales ne réagirent pas. Au cours de l'été 1938, Hitler se tourna vers sa nouvelle cible, la Tchécoslovaquie. Une minorité allemande non négligeable vivait au nord-ouest du pays, dans la région des Sudètes. La région allemande des Sudètes faisait partie de l'ancien empire austro-hongrois, mais elle avait été rattachée à la Tchécoslovaquie lors de la création du pays en 1919. C'était une véritable bombe à retardement amorcée à la signature du traité de Versailles. Hitler encouragea les Allemands des Sudètes à réclamer leur autonomie, puis menaça le gouvernement tchécoslovaque de représailles s'ils refusaient de l'accepter. Le gouvernement tchécoslovaque ne se laissa pas impressionner et se prépara à résister en lançant la mobilisation générale. L'armée tchécoslovaque était importante et bien équipée. Elle disposait d'impressionnantes fortifications à sa frontière avec l'Allemagne. Hitler fit machine arrière. Mais au début du mois de septembre 1938, le premier ministre britannique, Neville Chamberlain, préoccupé par la guerre qui semblait imminente, décida d'intervenir dans le conflit comme conciliateur. Il rencontra Hitler deux fois. Le dictateur nazi lui déclara que s'il pouvait récupérer la région des Sudètes, il n'aurait plus aucune autre exigence territoriale en Europe. C'est le 29 septembre 1938, à Munich, que Daladier pour la France et Chamberlain pour la Grande-Bretagne signèrent l'accord qui octroyait la région des Sudètes à l'Allemagne en échange d'un engagement formel de la part d'Hitler à ne plus revendiquer aucune autre extension territoriale. Si Daladier rentra honteux d'avoir accepté ce nouveau marché de dupes, Chamberlain retourna triomphant en Grande-Bretagne, convaincu d'avoir sauvé durablement la paix. Le 1er octobre, les troupes allemandes occupèrent donc la région des Sudètes et s'emparèrent des fortifications de la frontière tchécoslovaque. Hitler commençait déjà à jauger sa prochaine proie, la Pologne.
Eine große Nation muss dauernd zusehen, wie gegen Recht und vertragliche Stimmung Angehörige Blut.
Encore une fois, la raison officielle invoquée fut l'existence d'une minorité allemande séparée du pays à la suite du traité de Versailles. Hitler réclama le retour du port de Danzig sous contrôle allemand pour pouvoir ainsi relier la Prusse orientale au reste de l'Allemagne. Les Polonais refusèrent et Hitler hésita. Il n'était pas encore tout à fait préparé pour une guerre totale et il devait d'abord en finir avec la Tchécoslovaquie. En mars 1939, la Slovaquie, à l'est du pays, se tourna vers Hitler pour qu'il l'aide à obtenir son indépendance. La raison invoquée était la différence ethnique de sa population par rapport aux autres régions tchèques. Hitler fit venir à Berlin le premier ministre tchécoslovaque, Emil Hácha, et le poussa par des manœuvres d'intimidation à mettre son pays sous la protection de l'Allemagne. Les troupes allemandes purent alors envahir sans entrave le reste de la Tchécoslovaquie. Le Reich annexa la plus grande partie du pays et la Slovaquie fut déclarée protectorat de l'Allemagne. Pour la première fois, Hitler s'était emparé d'un territoire non germanophone et une fois encore, la Grande-Bretagne et la France n'élevèrent que de timides protestations. Fin mars 1939, Hitler renouvela sa demande à la Pologne de lui céder Danzig. Cette fois-ci, la France et la Grande-Bretagne affirmèrent sans équivoque qu'elles déclareraient la guerre s'il attaquait la Pologne. Hitler ne tint pas compte de cet avertissement. Il était convaincu de la faiblesse et de l'indécision de ses adversaires. La Russie soviétique de Staline était de plus en plus préoccupée par l'attitude agressive d'Hitler. En avril, elle proposa une alliance à la Grande-Bretagne et à la France. Mais les négociations furent ardues et finalement Staline, exaspéré, décréta qu'il existait une autre solution pour contrer la menace allemande. Le 23 août, l'Union soviétique et le Troisième Reich, dont tout le monde savait qu'ils étaient ennemis jurés, annoncèrent qu'ils avaient signé un pacte mutuel de non-agression. L'accord spécifiait secrètement que la Pologne serait partagée entre les deux pays et que Staline aurait carte blanche pour s'emparer de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Désormais libéré de toute menace russe, Hitler ordonna à ses forces armées de se préparer pour une invasion immédiate de la Pologne. Au soir du 31 août, la Wehrmacht était prête pour l'assaut. Son Führer avait pris l'ultime décision qui allait plonger le monde dans la guerre.
Voilà donc en quoi l'année 1938 fut une année décisive. On voit très bien comment, d'abord, l'alliance entre les deux dictateurs, Staline et Hitler, se partage le monde et donc ce qui allait se dérouler beaucoup plus tard à Yalta était déjà commencé et on voit le rôle tout à fait machiavélique qu'a pu jouer Staline durant toute cette période. Alors Hitler, il procède par petits coups. Au nom de la langue allemande, eh bien, il annexe l'Autriche, puis les Sudètes, puis il fait de la Tchécoslovaquie un protectorat. Et puis c'est Danzig, donc, avec le fait que ce port avait été allemand. Et puis surtout qu'il datait de l'époque prussienne. À chaque avancée de ce dictateur, les démocraties occidentales ne réagissent quasiment pas. Alors, je ne m'étendrai pas sur le cas du Britannique qui donc a été et a passé cette période comme dans un rêve puisque la réalité ne correspondait en rien à ce que il disait lorsqu'il revenait dans son pays. Le Français qui a représenté donc le gouvernement face à Hitler à ce moment-là, c'est Édouard Daladier, président du Conseil. Édouard Daladier va donc aller à Munich, 1938 donc, avec le Premier ministre Chamberlain. Et donc, ils vont discuter avec Hitler et ils vont faire confiance à cet homme. Hitler, évidemment, la main sur le cœur, va déclarer que s'ils sont d'accord, il n'ira pas plus loin. Il vient déjà d'annexer l'Autriche à ce moment-là. Et que si tout le monde est d'accord, en fait, la réalité, c'est qu'Hitler gagne du temps. Il gagne du temps parce qu'il est en train de s'armer. Il n'est pas prêt. Donc, il va négocier pour utiliser cette période de temps qu'il négocie, eh bien, pour affiner son armement. Alors, ce sont les chars Guderian, dont il est question dans ce document. Ce sont les Stuka, les avions de chasse terribles, qui ont fait des dégâts terribles de la Luftwaffe. Et lorsqu'il va être prêt, eh bien là, les accords, les promesses, tout ça ne tiendra plus. Et il va donc envahir en 1939 l'ensemble de l'Europe de l'Est avant de se retourner, puisque chaque fois il procède de la même façon. Il bloque les choses d'un côté et lorsqu'il a terminé de régler une question, eh bien il se retourne de l'autre côté et à ce moment-là, il attaque. On peut se demander ce qui se serait passé si effectivement les démocraties occidentales, la France et l'Angleterre notamment, je ne parle pas des autres, avaient fait autre chose que se retourner contre ce dictateur. Peut-être que le sort du monde n'eût été changé. En tout cas, ce que l'on peut savoir de la mentalité de l'époque, c'est que lorsque ils ont compris, les gouvernements ont compris que la guerre était inévitable, eh bien, ils ont relancé leurs usines d'armement, ils ont repris la structuration de leur armée, mais avec beaucoup, beaucoup de mauvaise volonté. Visiblement, ni l'Angleterre, ni la France ne voulaient aller au conflit. Le fait est qu'ils y sont allés le plus tard possible et la baïonnette dans le dos, mais c'était trop tard. On va écouter le discours d'Édouard Daladier, qui, revenant de Munich, explique ce qu'il a obtenu de Adolf Hitler. Avec le recul, ses propos sont terriblement ironiques.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici les stations de Radio Paris sur les longueurs d'onde suivantes. 1648 mètres sur grandes ondes, 432 mètres, 312 mètres 8, 288 mètres 5, 274 mètres et 219 mètres 6 sur onde moyenne. Notre émission va commencer dans quelques instants.
Je reviens d'Allemagne. Après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. J'ai la certitude qu'elle est aujourd'hui sauvée grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui n'a cessé d'inspirer à Munich l'action des chefs de gouvernement des quatre grandes puissances occidentales. J'espère qu'après avoir franchi ce défilé dangereux, nous pourrons envisager un règlement général des grands problèmes européens. Les heureux résultats sont aussi la conséquence certaine de l'émouvante discipline, du calme et de la résolution dont le peuple de France n'a cessé de faire preuve pendant tous ces derniers jours. C'est pourquoi jamais le peuple de France n'a possédé davantage qu'aujourd'hui l'estime réelle et profonde de toutes les grandes nations.
La grandiloquence des propos d'Édouard Daladier n'a d'équivalent que l'inefficacité et la cécité qui le caractérise, puisque quelques mois plus tard, eh bien, l'affaire sera entendue et Hitler mettra en œuvre son projet de domination de l'Europe. Enfin, il commencera à le mettre en œuvre. D'autant que, alors il ne faudrait pas oublier que tout se règle sur ce front-là. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, en Espagne, c'est la guerre. En Espagne, alors, au moment de Munich, des accords de Munich, les quatre, Daladier parle de quatre chefs d'État. Alors, il faut préciser donc qu'il y a Chamberlain, qu'il y a Daladier, Hitler et Mussolini. C'est-à-dire que la dimension internationale de ce conflit, elle est déjà en germe en Espagne, puisque des corps expéditionnaires italiens sont sur le territoire espagnol et soutiennent l'action du général Franco de soi-disant reconquête. On reviendra dans une autre émission sur la guerre d'Espagne. Que le Staline est engagé aussi, d'une certaine façon, avec des brigades internationales, et qu'Hitler soutient avec sa marine et avec son aviation l'action du général Franco. Donc, à ce moment-là, l'affaire est déjà dite, parce qu'en modèle réduit, ça se passe déjà en Espagne, et le fascisme est déjà en œuvre sur la péninsule ibérique. Et les Français, malheureusement, imaginent encore, parce que par ailleurs, ils ferment leurs frontières aux Espagnols, aux républicains espagnols. Et les Français, dans une espèce d'attitude de réserve, pensent qu'on va peut-être échapper à un conflit, et Daladier pense qu'il a sauvé la paix. Il n'a rien sauvé du tout. Au contraire, il a créé les conditions de la guerre. Alors, cette année-là, aux États-Unis, Roosevelt est inquiet. Il se rend bien compte, lui, qui est un chef d'État qui aura fait 4 mandats au total, il est à son 4e mandat, mandat qu'il n'achèvera pas, puisque la maladie le terrassera. Roosevelt est inquiet parce qu'il a compris, lui, qu'effectivement, c'est un conflit de grande ampleur qui va commencer en Europe. Il est dans une position difficile, puisqu'il ne souhaite pas s'engager, mais il ne souhaite pas s'engager parce que son opinion publique n'est pas prête à ça. Mais il sait que tôt ou tard, il faudra faire quelque chose. Alors, il met en œuvre un certain nombre de moyens. Il aide par l'envoi de... quand le conflit va être engagé, il va aider en envoyant de l'armement. Et puis, il faudra attendre l'intervention du Japon dans le conflit pour que là, effectivement, les États-Unis... Mais ça sera beaucoup plus tard. Et là, les États-Unis s'engageront. Mais donc... Il sait qu'il va se passer quelque chose. Mais l'Amérique, elle exulte. L'Amérique, elle est heureuse parce que le résultat du New Deal, après la crise de 1929, eh bien, a relancé l'économie et les gens sont heureux et on fait de la musique, bien sûr. Et il va se passer en 1938, il va y avoir un événement extraordinaire. C'est-à-dire que le jazz va être reconnu comme une musique à part entière. Alors pourquoi ? Évidemment que c'est déjà une musique à part entière, mais... En 1938, eh bien, le jazz va rentrer à Carnegie Hall. Carnegie Hall, c'est la salle de concert où ont lieu tous les concerts de musique classique. Et un organisateur va proposer à un chef d'orchestre de l'époque, Benny Goodman, il va lui proposer de faire un concert à Carnegie Hall. Alors, Benny Goodman, il n'est pas très chaud. Il imagine mal, il se dit, c'est une très grande salle, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que... les gens vont apprécier cette musique qu'ils connaissent peu. Ils pensent qu'il va y avoir un public de connaisseurs de musique classique. Et donc, il n'est pas très chaud. Il fait annuler plusieurs dates successivement. Puis, il finit par accepter. Alors, bon, il faut bien dire que Carnegie Hall, comme je le précisais, c'est un peu le temple de la musique classique. Et ce temple reçoit des artistes de renom international. Et personne n'a encore joué du jazz. L'idée même de se produire avec son orchestre est totalement révolutionnaire. C'est assez osé. Qui plus est, son orchestre est mixte. C'est-à-dire qu'il est composé de blancs et de noirs. Le noir le plus connu, c'est Lionel Hampton, le vibraphoniste. Finalement, eh bien, le concert aura lieu. Il aura lieu le 16 janvier 1938. Les 2760 places sont toutes vendues à l'avance en quelques heures, malgré leur prix de 2,75 $, qui est un tarif exorbitant pour l'époque. Et le concert débute par un certain nombre de tubes de Benny Goodman, dont « Don't Be That Way ». We'll be right back. Voilà, alors au début, le public sera poli, mais il applaudira, tout se passera bien. Benny Goodman est un peu inquiet, et puis il va décider de donner la parole à certains musiciens avec des formations, l'orchestre reste en place, mais avec des dialogues et des petits moments courts entre les musiciens. Et il y en a un qui va se produire entre son trompette, Harry James, et Gene Krupa, et là, le public va être gagné. Voilà, ainsi s'achève ce premier épisode de l'année 1938. Demain, nous reviendrons sur ce concert inoubliable de 1938. Nous aborderons les quelques moments absolument fantastiques de ce concert et nous poursuivrons sur ce qui se passe en Europe. Mais demain, c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words. Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.